Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies avec en titre « Le Conseil de sécurité examine la situation en Irak et au Burundi ». L'ONU dénonce 2 attentats contre des civils en Afghanistan. Au Népal, l'UNICEF se préoccupe de la santé émotionnelle des enfants. Fin du segment de haut niveau du Forum sur les forêts et la FAO s'active pour venir en aide aux agriculteurs du Soudan du Sud. Nous ferons aussi le point sur la fermeture annoncée du camp de Dadaab au Kenya. C'est la situation en Irak qui a tout d'abord mobilisé ce jeudi l'attention du Conseil de sécurité. Devant les 15, Valérie Amos, la secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires, a notamment indiqué que la situation dans les zones qui sont sous le contrôle de l'État islamique est en train de se détériorer, avec un accès de plus en plus réduit à l'eau, aux vivres et aux soins médicaux. Des informations indiquent aussi que les populations qui y vivent ne peuvent plus les quitter ni communiquer avec l'extérieur librement. Yann Koubich, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Irak, a salué de son côté les avancées réalisées par les forces de sécurité irakiennes pour libérer ces territoires. Mais encore faut-il qu'elles puissent les maintenir. On l'écoute.
Une solution militaire ne suffira pas à elle seule pour vaincre le IIL. Pour que les avancées militaires soient durables, le gouvernement de l'Irak doit aussi rétablir la confiance des communautés désaffectées, leur assurer qu'elles pourront participer à la gouvernance et garantir la capacité de l'État à les protéger de la violence, à faire justice et à créer les conditions pour leur participation équitable dans la société. Jusqu'à ce que la majorité des populations déplacées soient assurées que les conditions pour un retour sûr et durable des civils auront été créées, de tels retours ne se produiront pas. Et une des conséquences risque d'être la poursuite des changements démographiques involontaires, notamment dans les territoires que se disputent Bagdad et Erbil.
Le Conseil de sécurité s'est ensuite réuni d'urgence à la demande de la France pour examiner à huis clos la situation au Burundi. Et ce, au lendemain du début de la tentative de coup d'État contre le président Nkurunziza et alors que la situation sur place semble toujours confuse, notamment à Bujumbura. Mercredi, quelques heures après l'annonce du coup d'État, Ban Ki-moon avait exhorté chacun à faire preuve de responsabilité. Jérôme Longuet.
Face à l'annonce d'une tentative de coup d'État au Burundi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé instamment mercredi les parties burundaises à faire preuve de retenue. Ban Ki-moon tient à rappeler aux leaders burundais l'importance de préserver la paix et la stabilité dans ce pays qui a souffert si cruellement par le passé d'accès de violence. Selon la presse, un général de l'armée burundaise, Godefroy Nyombare, a annoncé mercredi à Bujumbura la destitution du président Pierre Nkurunziza, ce que la présidence a immédiatement démenti. Le président Nkurunziza se trouvait au moment des faits en Tanzanie pour un sommet extraordinaire de chefs d'État d'Afrique de l'Est. Le Burundi est en proie à une vague d'agitation depuis le 26 avril dernier, date à laquelle le parti au pouvoir a décidé d'investir pour une candidature à un troisième mandat, Pierre Nkurunziza.
En Afghanistan, les talibans ont revendiqué 2 attentats qui ont tué au moins 17 civils. Des attaques dénoncées par la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, qui a appelé les talibans à honorer immédiatement leur engagement à cesser de prendre les civils délibérément pour cible. Les explications de Florence Westgaard.
Hier, une attaque contre des civils venus participer à un événement culturel organisé au Park Palace Hotel à Kaboul a fait 14 morts et blessé de nombreuses personnes. 3 autres civils ont aussi été tués et 2 autres blessés lors d'un attentat qui a pris pour cible le département du Hajj et du financement religieux de l'Ashkarba dans la province de Helmand. La mission d'assistance en Afghanistan a affirmé que face à de telles atrocités, l'engagement des talibans à éviter de faire des victimes civiles sonne creux. La MANUA souligne d'ailleurs que le droit international humanitaire interdit les attaques contre les civils et que de tels actes peuvent être considérés comme des crimes de guerre. Selon la MANUA, depuis le début de l'année, près de 1000 civils ont été tués et plus de 1900 blessés, soit une augmentation de 16% comparée à la même période l'an dernier.
Après avoir vécu 2 séismes en 2 semaines et demie et des dizaines de répliques, les enfants népalais paient un lourd tribut émotionnel. C'est ce qu'avertit ce jeudi l'UNICEF qui indique que suite au séisme du 12 mai, des milliers d'enfants et leurs familles se retrouvent à dormir de nouveau dans des abris de fortune. Les enfants font des cauchemars, ils ne peuvent pas dormir, ils sont stressés ou ne parlent tout simplement pas. L'UNICEF s'active pour tenter de les aider, comme l'explique Sarah Krau, chargée de communication de l'UNICEF à New York.
On a fait des efforts de donner conseil aux enfants, de faire un soutien psychologique, de faire des thérapies de l'art pour les enfants, d'expliquer ce que s'était passé avec des crayons, avec des dessins, des peintures, des choses comme ça. Nous avons aussi un programme en Radio Népal qui s'appelle Bondai Sandai, qui offre des mesures de conseil aux enfants, surtout des enfants qui sont dans des régions qui sont très très loin de capitale. C'est très important de donner les enfants leur temps, l'espace, un sens de routine dans leur vie et de commencer avec éducation. Ça, c'est très important pour leur routine et ça, c'est un sens de donner un avenir pour les enfants.
Au siège se termine ce jeudi le segment de haut niveau du Forum des Nations Unies sur les forêts. Depuis 15 ans, ce forum étudie des approches diverses pour mieux gérer et de façon durable différents types de forêts. Au cours de cette 11e session qui prend fin vendredi, les participants doivent notamment décider de l'adoption d'une résolution visant à mieux renforcer la lutte contre la dégradation et la déforestation à tous les niveaux. On écoute Benjamin Singer, expert forestier auprès du Forum sur les forêts.
Cette résolution est différente des autres résolutions du Forum des Nations Unies sur les forêts, puisque le Forum, qui a été créé en 2000, avait un mandat de 15 ans, donc qui arrive à échéance cette année. Ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est est-ce que les États membres veulent continuer avec les institutions qui ont été créées en 2000, est-ce qu'elles vont être modifiées, est-ce qu'elles vont être remplacées, ça on ne le sait pas encore. Donc justement, c'est ce qui est en train d'être négocié et comme on peut l'imaginer, donc c'est vraiment une étape décisive dans la gouvernance internationale sur les forêts. Et c'est aussi un test pour voir si les gouvernements veulent mieux s'accorder entre eux pour enrayer la déforestation.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture s'active pour acheminer des semences, des outils et autres matériaux aux agriculteurs les plus vulnérables du Soudan du Sud. Les stocks de vivres de ces derniers sont au plus bas et ils n'ont que quelques semaines pour planter leur prochaine récolte. Jusqu'à 18 vols quittent Djouba chaque jour et la FAO a ainsi pu acheminer près de 100 tonnes d'intrants vers les États du Haut-Nil et de Jonglei. Seul un vol a pu atterrir dans l'État d'Unité avant que le conflit ne force les agences de l'ONU et leurs partenaires à suspendre leurs activités. Serge Tissot est le représentant intérimaire de la FAO au Soudan du Sud. Il est au micro de Muriel Sarr.
Au cours des dernières semaines, il y a eu une offensive des forces gouvernementales au sud de l'État d'Unité. Et de ce fait, la sécurité n'est plus assurée dans ces zones-là. C'est une zone où on estime environ 100 000 personnes déplacées à cause des derniers événements sécuritaires. Et c'est une zone qui restera toujours très compliquée parce que c'est une zone de marais. Et la population est déplacée maintenant à l'intérieur de ces marais. C'est quelque chose d'extrêmement sensible.
Comment la FAO pourrait-elle continuer à apporter sa contribution?
Ce n'est pas parce qu'on a un conflit dans une zone précise, dans un comté précis, que l'on n'a pas accès au reste du territoire. Pour l'instant, on distribue beaucoup de semences et d'outils dans l'état de Upper Nile et dans l'état de Jonglei, dans toutes les zones où la sécurité nous permet d'accéder. Donc on a toujours un programme qui va de l'avant. On distribue à la fois des semences pour des cultures vivrières, mais également des semences pour des légumes et de l'équipement pour la pêche.
Combien de temps a-t-on pour aider les populations et de combien de personnes parle-t-on exactement?
On a très peu de temps pour aider les populations. La saison de plantation ne dure que 3 mois. Elle démarre à la fin du mois de mars, se termine au mois de juin. La FAO a déjà distribué des semences dans les 3 États du sud du pays. Et maintenant, on distribue essentiellement les semences dans les zones de conflit. On est parfaitement dans le temps pour la saison de plantation. On va distribuer environ 800 tonnes de semences et d'outils. On distribue à l'heure actuelle dans ces zones de conflit par des transports aériens. Donc il y a énormément de rotations tous les jours. On va jusqu'à 18 vols par jour. Dans certaines zones, on est obligé d'utiliser uniquement des petits avions avec uniquement une capacité de 2 tonnes parce que les aéroports dans ces zones-là sont très petits, ont une faible capacité. On prévoit assister 175 000 familles dans ces régions directement affectées par le conflit actuel.
Et que se passerait-il si les populations ne recevaient pas les semences et les outils dont elles ont besoin ?
Au Sud-Soudan, dans la plupart des zones, il n'y a qu'une seule saison de plantation par an. Si les personnes ne plantent pas leurs semences maintenant, la prochaine campagne de plantation sera l'année prochaine, donc avec une récolte qui aura lieu uniquement en septembre 2016. Ce qui veut dire qu'il va falloir couvrir un déficit alimentaire durant une période de pratiquement un an et demi. Bien entendu, la FAO pourra toujours compenser en partie par la distribution de kits de légumes ou de l'équipement pour la pêche, mais ça ne remplacera pas la ration alimentaire. Donc ça veut dire que si on ne plante pas aujourd'hui, on ne récoltera pas de semences cette année-ci dans ces zones-là. Une famille peut récolter avec les semences de la FAO environ 1,3 tonnes de grains par an. Ça correspond à environ à 5 mois de nourriture. Si cette nourriture-là n'est pas disponible grâce aux semences de la FAO, il faudra que l'assistance alimentaire directe compense ce déficit. Ça risque de coûter très cher et d'être très compliqué à organiser au niveau logistique à cause des pluies qui arrivent et des routes qui vont être inaccessibles.
Le haut-commissaire aux réfugiés Antonio Guterres poursuit cette semaine sa visite dans l'est du continent africain. Après un passage au Kenya, il s'est rendu en Somalie, notamment dans la ville portuaire de Kismayo, où il a rencontré des rapatriés du Yémen. En effet, depuis le début du conflit dans ce pays, nombreux sont les migrants somaliens qui sont retournés chez eux. Antonio Guterres s'est aussi entretenu avec des individus rapatriés du camp de Dadaab au Kenya. De passage dans nos studios, Philippe Lazzarini, le coordonnateur humanitaire pour la Somalie, fait le point sur les répercussions que pourrait avoir la fermeture annoncée de ce camp. Il est au micro de Tsige Chiferao.
Elles avaient souhaité la fermeture de ce camp et le gouvernement kényan et le président kényan ont réitéré le respect de leurs engagements par rapport au droit humanitaire international et ont réitéré que le retour des réfugiés ne se fera que sur une base volontaire à travers les mécanismes tripartites qui ont été mis en place. Ce qui signifie que cette menace de refoulement s'est éloignée, a été clarifiée et que l'on retourne sur une base de retour volontaire. Les conditions pour un retour massif de réfugiés en Somalie ne sont de toute manière pas réunies.
À cela s'ajoute aussi la crise au Yémen. Est-ce que vous avez vu, par exemple, un nombre de Somalis revenir du Yémen ? Et si c'est le cas, comment sont-ils réintégrés dans la société somalienne ?
Bon, effectivement, la situation au Yémen est une source de préoccupation pour la Somalie. Actuellement, vous avez environ 1 million de Somaliens au Yémen, parmi lesquels vous avez 250 000, 300 000 réfugiés. On a surtout vu une route entre la Somalie en direction du Yémen. Et maintenant, pour la première fois depuis la guerre civile, nous avons vu quelques Somaliens revenir du Yémen en Somalie. Pour l'instant, les chiffres sont plutôt modestes. Nous avons enregistré environ 3000 personnes qui sont revenues du Yémen, mais il n'est pas exclu qu'à l'avenir, plus de personnes décident de revenir en Somalie.
Vous avez mentionné le financement, notamment de l'aide humanitaire. Selon un rapport d'OCHA, seulement 12% des fonds requis ont été obtenus. Comment ça se traduit sur le terrain ?
Avec 12% et avec peu d'argent qui nous reste de 2014 pour mener nos activités, nous devons tout simplement prioriser. Il y a certaines activités critiques pour lesquelles nous n'avons pas pu répondre aux besoins. Un exemple, récemment, il y a eu des inondations. 7 000 à 10 000 personnes ont été affectées. Nous n'avons tout simplement pas pu répondre à ces besoins. Un autre exemple, le PAM est en train de réduire ses rations alimentaires dans le pays et va devoir continuer de réduire s'il n'y a pas plus d'argent prévisible dans les mois à venir. L'année dernière, l'UNICEF a dû mettre un terme à son soutien aux soins de santé primaire avec un certain nombre de partenaires, tout simplement en raison du manque d'argent.
Toujours à propos d'argent, le rapport d'OCHA souligne que bon nombre de compagnies de transfert d'argent ont été fermées, la plus connue étant Dahab Shield. Comment cela impacte la population sur le terrain ?
Alors ça, c'est une source de préoccupation. Cet apport d'argent de la diaspora dans le pays représente environ 1,5 milliard de dollars par année, ce qui est 2 fois l'aide humanitaire de développement apportée au pays. On sait que 40% de la population bénéficie de cette assistance et que ces 40% de la population utilisent l'entièreté de cette assistance, de cette vanne financière pour financer l'accès à l'éducation primaire, l'accès aux soins primaires, rien d'autre. Donc uniquement pour satisfaire des besoins primaires.
Et c'est avec Philippe Lazzarini que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.